Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Premier gouvernement MPSR 2, 23 ministres seront aux commandes, dont 5 femmes et 5 anciens ministres du MPSR 1. Lutte contre le terrorisme, la brigade de veille et de défense patriotique ouvre les portes pour le recrutement de 50 000 hommes. Insécurité au Burkina, le tour du Faso 2022 a été annulé en raison de la situation sécuritaire. Et puis au Tchad, un deuil national de 7 jours a été décrété à compter d'hier. En invité, le secteur minier est touché par la crise sécuritaire que traverse le pays. Conséquence sur les 15 mines en activité, 6 ont fermé et plusieurs projets de recherche suspendus à cause de l'inaccessibilité de certaines zones. On en parle avec Élie Kaboré, directeur général de Mines Actu Burkina. Il est notre invité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Burkina Faso a une nouvelle équipe gouvernementale, la première du MPSR 2 du capitaine Ibrahim Traoré. Le nouvel exécutif dévoilé hier compte 23 membres, dont 5 du gouvernement précédent. Nous vous invitons à découvrir la composition de cette équipe de Apollinaire Kilem avec Khaled Ouedraogo.
C'est une promesse faite et tenue par le nouveau Premier ministre de la Transition. Sur les 25 portefeuilles ministériels autorisés par la Charte de la Transition, Apollinaire Kilem a bâti une équipe gouvernementale resserrée de 23 membres. Un gouvernement placé sous le signe de la continuité, avec la reconduction de 5 anciens ministres du précédent gouvernement. Bassolma Bazier, Olivia Rwamba, Karamoko Traoré, Robert Kargougou et Aminata Zerbo sont les ministres qui ont été repêchés par le nouveau chef de l'exécutif. En plus de conserver son poste de ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazier est bombardé ministre d'État. Le deuxième ministre d'État de ce gouvernement est le colonel-major Kassoum Koulibaly, qui prend désormais les rênes du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Apollinaire Kilem a également ratissé large et fait appel à de nouvelles compétences pour porter l'action gouvernementale. Jean-Emmanuel Ouedraogo, précédemment directeur de la RTB Télé, est nommé ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le ministère en charge du Commerce échoit à Donatien Nagalo, figure bien connue du monde des affaires. Fusionné au ministère de l'Action humanitaire, le portefeuille de la Réconciliation nationale est désormais l'affaire de Nandi Somene Diallo. Le très stratégique ministère de l'économie, des finances et de la prospective a été confié à Boubacar Nakanabo, un inspecteur des impôts. En plus de la suppression du ministère des Affaires religieuses et coutumières, l'autre fait marquant dans la composition de ce gouvernement est la représentativité de l'autre moitié du ciel. En effet, le premier ministre a fait appel à 5 femmes, soit une place de moins pour la gente féminine, comparativement à l'équipe gouvernementale précédente.
Quelques réactions à présent. Les membres du gouvernement de la transition sont pour la plupart à méconnus du grand public. Certains ministres du gouvernement de Albert Ouedraogo sont reconduits. C'est une opportunité pour eux de se racheter. C'est ce que pense Serge Daniel, acteur de la société civile. Serge Bayala, plutôt, excusez-moi. Il a été joint au téléphone par Ibrahim Niaouné.
Observation, c'est comme tout le monde, c'est des personnes qui ne sont pas assez connues. En dehors des deux personnes de l'ancien gouvernement, Bassolma et puis la dame des affaires étrangères, qui sont comptables de la gestion de Damiba, parce que jamais ils n'ont rejeté les pratiques, en tout cas de façon publique, en tout cas on n'a pas vu une opposition à la direction que Damiba avait prise, y compris les salaires qu'il avait taillés pour eux, qui font partie des raisons de la chute de Damiba. Certainement, c'est une occasion pour eux de se racheter. Mais le reste des ministres, en dehors de Jean-Emmanuel Ouedraogo de la communication, qui était à la RTB, bon, le reste, c'est des personnes anonymes qui ont certainement les profils ou les compétences que Maître Kilem recherche pour adresser son plan gouvernemental. Donc, à partir de cette liste-là, on ne peut pas déduire qu'ils vont échouer. Ça ne peut pas être notre souhait. Tout ce qu'on espère, c'est qu'ils nous surprennent agréablement.
Autre réaction, casting réussi selon Anselme Somda, chargé de programme au Centre de gouvernance démocratique CGD. Il estime toutefois qu'il faudra voir l'équipe gouvernementale à l'œuvre pour pouvoir apprécier leur capacité à conduire la refondation. Nous l'écoutons.
Oui, c'est déjà un effort comme promis par le Premier ministre. Il avait dit que, de toute façon, la charte disait 25 au maximum. Mmh. Voilà, ce qui veut dire qu'on peut faire moins. Donc, comme l'a dit le Premier ministre, il a fait moins. Donc, avec 23 membres, c'est déjà un effort. Voilà, et puis, j'ai vu que Bassolma est reconduit. Bon, moi, personnellement, ça ne m'embête pas parce que déjà, je pense qu'il avait quand même fait quelques réformes assez intéressantes qu'il avait engagées. Donc, sa reconduction, pour moi, vise à lui permettre de poursuivre les réformes qu'il a engagées, quoi. Pour moi, c'est dans la même logique, hein. Du moment où ils n'ont pas changé les MPSR, c'est le MPSR qui est toujours au pouvoir. Et voilà, j'imagine que ils ont certainement décidé de garder une certaine ossature pour ne pas tout désarticuler, quoi. Selon moi, c'est cela. Ouais, ils ont même gardé aussi les RG du gouvernement. Quant à la refondation, on attend de voir l'équipe gouvernementale à l'œuvre pour mieux apprécier. En tout cas, du point de vue des profils du casting, voilà, c'est pas mal. Maintenant, il faudrait qu'ils aient les coudées franches pour pouvoir engager les réformes attendues, quoi. Mais je pense qu'avec ces hommes et ces femmes, on peut commencer la refondation. Si, on leur donne, en tout cas, on leur permet d'avoir les coudées franches pour engager ça, je pense que c'est des hommes et des femmes qui peuvent engager la refondation.
Adama Tindrebegodi, colonel ancien député de l'Assemblée législative de transition, déplore pour sa part la mise à l'écart des hommes politiques dans le gouvernement de Maître Apollinaire Kyelem. Pour lui, un gouvernement d'union nationale était ce qu'il fallait au Burkina Faso dans le contexte sécuritaire et sociopolitique actuel. Nous l'écoutons également.
Je ne vois pas de tête politique à l'intérieur de ce gouvernement. Bon, c'est un gouvernement, mais je trouve qu'on pourrait faire mieux que ça. Voilà, pour moi, je me dis que la situation actuelle là, le commandait qu'on essaie de voir pour ratisser l'âge. J'allais dire un gouvernement un peu tendance de large rassemblement. Parce que composer un gouvernement présentement en mettant les hommes politiques totalement de côté, je trouve que c'est trop osé. Je me dis que, bon, on pourrait faire mieux que ça. Nous sommes dans une situation un peu difficile que de mettre carrément les hommes politiques là de côté. Je ne pense pas que c'est les hommes politiques qui sont à la base de la situation que nous vivons. Voilà, donc pour moi, il fallait appeler toutes les compétences dans tous les secteurs pour faire bouger les lignes.
Adama Tindrebegodi, colonel, joint au téléphone par Ibrahim Niaone. Et nous parlons de lutte contre le terrorisme à présent. Le commandant de la brigade de veille et de défense patriotique informe la population des villes et des campagnes qu'il a lancé le recrutement de 35 000 VDP, donc des VDP communaux, soit 100 VDP par commune pour servir aux côtés des forces de défense et de sécurité. Ce recrutement intervient après celui lancé la veille qui fait appel à 15 000 supplétifs pour renforcer les rangs. En effet, la brigade de veille et de défense patriotique a lancé le recrutement de 15 000 volontaires pour la défense de la patrie à VDP lundi. Ces éléments vont participer aux opérations militaires sur le terrain. Le communiqué précise que les candidats retenus suivront une formation militaire et civique. Pour être éligibles, ils doivent être de nationalité burkinabé, avoir au moins 18 ans. Les dossiers seront reçus jusqu'au 4 novembre prochain dans les gouvernorats et au commissariat. Et puis à ce propos, Radio Omega a promené son micro dans les rues de Ouagadougou, Faouzia Zongo et Souleymane Kema ont recueilli quelques avis sur le sujet. Le moins qu'on puisse dire est que la décision est bien appréciée par la population. Écoutez plutôt.
L'armée seule ne peut pas combattre le terrorisme. Il faut la participation de tout le monde pour s'engager et pour aboutir à un bon résultat. Je pense que c'est une très bonne idée.
Il y a des gens, en tout cas, qui ont la rage d'aider les FDS à combattre. Mais s'il y a en tout cas ce genre de recrutement qui est officiel, là si tu t'engages, toi aussi tu sais pourquoi tu combats, ça veut dire tu combats avec les règles, tu sais que les autorités vous suivre. Donc, je pense que c'est bien. C'est bien.
Bon, nous trouvons que c'est bien. Parce que bon, peut-être ça peut résoudre un peu cette question de terrorisme. Mais, à quelque part aussi, ça pose un autre problème. Parce que, étant donné que bon, le problème se trouve au sein des Burkinabés, et que non, on doit recruter uniquement que des jeunes du Burkina, qu'est-ce qui prouve que non, ces terroristes ne vont plus s'enrôler également au sein de ce groupe?
À tous ceux qui veulent défendre le pays, de participer, et puis ça va diminuer le chômage aussi. Je pense qu'ils ne vont pas les libérer après le combat pour qu'ils continuent à défendre notre nation. Parce que celui qui est au pouvoir, même c'est un jeune, il connaît comment ça se passe sur le terrain.
Le problème aussi, c'est pouvoir les encadrer, trouver les armes, les moyens pécuniaires. C'est ça aussi qui peut poser un problème. Mais il ne peut pas avoir de problème s'il y a une bonne politique. C'est tout évident, comme dit le président. Si on trouve que le recrutement des VDP, des 15 000 VDP, c'est une urgence, donc il faut laisser certaines dépenses inutiles.
Voilà quelques réactions sur ce recrutement de VDP, des propos recueillis par Faouzia Zongo et Souleymane Nikiema. Et nous restons dans le domaine de l'insécurité pour parler du traitement des informations en situation de crise. La Fondation Hirondelle soucieuse du traitement de l'information dans les règles d'éthique et de déontologie a rencontré les hommes de médias afin de les recadrer. Car certains médias nationaux ont commis des imprudences dans le traitement de l'information pendant les événements du 30 septembre dernier. Ces erreurs ne permettant pas une bonne résolution de la crise, la Fondation Hirondelle veut mettre fin à de tels manquements. Une activité qui vise à inculquer aux journalistes les techniques de traitement d'informations sous pression et en situation de crise. C'était mardi dernier, le compte-rendu de Ibrahim Niaouné avec la voix d'Asma Oudao.
Les techniques de collecte et de traitement de l'information en situation de crise ont constitué le partage d'expériences. Ces techniques qui ne sont pourtant pas enseignées à l'école de journalisme. Le putsch du 30 septembre 2022 ont mis à nu ces lacunes en lien avec le traitement de l'information, ce qui a amené la Fondation Hirondelle à organiser la conférence interrédactionnelle pour renforcer les compétences en la matière. Yacine Sanou, le porte-voix de la Fondation Hirondelle.
En tant que journaliste, on a vu un peu comment chaque média a essayé de s'adapter, comment chaque média a essayé, en termes de format, en termes de sécurité même de ses journalistes, en termes de vocabulaire même, de s'adapter à ces événements-là. C'est des choses qui ne s'apprennent pas à l'école. On est obligé de s'adapter à des circonstances qui arrivent. Donc on s'est dit que c'était bon d'avoir, comme on le dit dans notre jargon, une conférence de rédaction entre les différents médias pour qu'on partage les expériences et pouvoir tirer ensemble des leçons.
Ce partage d'expériences est apprécié par la trentaine de journalistes burkinabés qui souhaitent d'ailleurs une pérennisation de l'activité, comme le journaliste Ignace Ismaël Nabolé.
C'était vraiment enrichissant pour nous. C'est vrai que nous sommes un peu des aînés, mais nous avons aussi appris de nos jeunes frères qui actuellement sont sur le terrain, qui travaillent à rapporter des informations, qui rencontrent parfois des difficultés que nous ne rencontrions pas quand nous étions vraiment sur le terrain. Voilà, donc c'est un cadre vraiment qu'il faut perpétuer. Permettre aussi à plus de personnes de participer afin que les échanges puissent être vraiment approfondis.
La conférence interrédactionnelle première du genre est un cadre de renforcement de compétences des journalistes en situation de crise, des périodes durant lesquelles les travailleurs des médias vivent des scènes traumatisantes. Cependant, c'est en de pareilles circonstances qu'ils ont plus besoin de soutien psychologique.
Hors de nos frontières, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a indiqué hier que Bamako était prêt à restaurer ses relations avec Paris à condition que les autorités françaises respectent leur souveraineté et leur choix stratégique. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby s'est adressé à ses compatriotes lundi dernier. Lors de son discours, le président de la transition est revenu sur les manifestations du jeudi 20 octobre dernier. Il accuse l'opposition d'être responsable de la situation et notamment le parti Les Transformateurs, suspendu de la vie publique ces derniers jours. Dans la foulée, il a annoncé un deuil national de 7 jours à compter d'hier à mardi. Et puis, sans transition en sport, le Tour du Faso 2022 a été annulé à cause de la situation sécuritaire. Le secrétaire général du ministère des Sports l'a fait savoir à la Fédération Burkinabé de cyclisme à travers un courrier.
L'invité du jour. L'invité du jour.
La crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso impacte le secteur minier sur le plan économique, social. Conséquence, sur les 15 mines en activité, 6 enfermées et plusieurs projets de recherche suspendus à cause de l'inaccessibilité de certaines zones. Un secteur en crise, selon Eli Kabore, directeur général de Mines Actu Burkina. Il est interrogé par Valérie Guéret.
Kabore, bonjour.
Bonjour.
De façon générale, quelle est la situation de l'industrie minière au Burkina?
Le secteur minier occupe une place de choix dans l'économie nationale. Nous avons environ 15 mines en exploitation. Malheureusement, depuis le début de l'année, au moins 6 mines sont fermées. Quand je parle de mines, c'est des projets miniers ayant des permis à part et des numéros IFU et des registres de commerce à part. Donc Yuga, Nitiana, Wari ont suspendu leurs activités du mois seulement parce que Yuga a fini de ramasser son minerai et Nitiana partait en souterrain et les deux sociétés comptaient sur le minerai de Wari qui a malheureusement connu une attaque le 30 janvier 2022. Donc l'un dans l'autre, on a plus de 2000 emplois qui sont aujourd'hui perdus et avec un manque à gagner de plus de 20 milliards pour le budget de l'État, sans compter bien sûr le fonds minier de développement, la patente, la taxe superficielle qui sont directement reversées au niveau des collectivités. Donc on a un secteur vraiment en crise et depuis un certain temps, les statistiques montrent que la production d'or est en baisse continue. Entre janvier et août 2022, on a enregistré une baisse de près de 13% de la production par rapport à la même période l'année passée.
Il y avait des projets en cours en termes de recherche. Qu'en est-il exactement?
L'insécurité aussi a beaucoup impacté sur la recherche. Vous savez très bien que l'avenir d'un pays minier se trouve dans la recherche. Au-dessus de Kaya, on ne peut plus mener la moindre activité. Au-dessus du Congo, on ne peut plus mener la moindre activité. Alors qu'on avait un gros paquet de sociétés en recherche dans ces zones-là. Donc, disons, la diminution de la recherche va beaucoup impacter sur l'avenir de ce secteur parce qu'il n'y aura pas de nouveaux permis en tant que tel.
Est-ce que cette situation n'est pas de nature à décourager d'éventuels investisseurs?
L'aspect sécuritaire décourage beaucoup d'investisseurs. Déjà, avec les investissements qu'ils ont eu à faire, par exemple au niveau de la recherche et au niveau même des permis qui sont fermés, c'est quand même une immobilisation qui ne dit pas son nom. Donc, c'est de l'argent qui est immobilisé, qui ne travaille pas. Quand même, un manque à gagner pour ces sociétés-là qui étaient venues quand même se faire de l'argent. Donc, c'est une situation qui aura un impact à long terme sur le développement des activités au niveau du Burkina, l'arrivée des investisseurs, l'augmentation des investissements directs étrangers, bien sûr, les questions de balance commerciale, parce que moins d'argent va rentrer au niveau du pays. Ça ne sera vraiment pas évident que l'on puisse assurer un avenir radieux pour ce secteur-là.
Justement, en parlant d'accompagnement, est-ce qu'il y a des sociétés minières qui bénéficient d'un accompagnement de la part de l'État, surtout sur le plan sécuritaire?
Non, je pense que c'est au cas par cas. Chacun demande l'escorte et puis on les escorte. Mais je ne pense pas que c'est ce que les sociétés, vraiment les sociétés s'attendaient à ça. On peut mieux faire. On peut mieux faire parce qu'il y a des sociétés qui ont des retards de livraison, parce que les escortes ne sont pas régulières et ne sont pas à la limite comme elles le voulaient. C'est vrai qu'il y a des contraintes, parce que c'est le même matériel, ce sont les mêmes hommes qu'on utilise ailleurs pour la sécurisation du territoire d'une manière générale. Donc aujourd'hui, quand même, il y a des sociétés, quand vous prenez celles qui sont dans les zones rouges, une société comme Isakhan peine vraiment à avoir souvent des ravitaillements parce qu'elle doit traverser toute la zone et se retrouver au cœur même des hostilités. Donc c'est une société qui est obligée d'investir d'énormes sommes d'argent pour la sécurisation des convois, la réparation des routes qu'elle emprunte, bien sûr, le transporter son personnel.
Comment redynamiser ce secteur?
La redynamisation de ce secteur-là passe, comme je l'ai dit, par le dialogue et la réaffirmation du rôle de l'État, en tant que le leadership de l'État en tant qu'entité qui doit coordonner et conduire ce dialogue-là. Donc le mieux serait de vraiment mettre l'accent non seulement sur la sécurisation du pays d'une manière générale, mais aussi voir dans quelle mesure on peut accompagner ces sociétés-là sur le plan de la sécurisation de leurs convois, la sécurisation des sites, et la sécurisation du personnel et aussi, pourquoi pas envisager un dialogue qui va permettre aussi au cas par cas, comment accompagner sur le plan fiscal certaines entreprises, comment les aider aussi à régler les questions environnementales, parce qu'aujourd'hui quand même, il y a des sociétés qui ont fini de travailler, qui ont abandonné des sites et qui ont besoin quand même de réhabilitation. Comment il faut les accompagner pour la réhabilitation? Comment il faut aussi accompagner ces sociétés pour qu'elles continuent les interventions au niveau communautaire? Comment accompagner les collectivités qui reçoivent les fonds miniers pour qu'elles continuent à faire des investissements? Peut-être même que ces investissements peut permettre aussi de résorber le chômage dans ces localités-là et peut-être décourager des jeunes qui sont candidats au niveau de ces groupes armés-là. Donc c'est une réflexion d'ensemble qu'il faut mener en mettant ce secteur-là au cœur de la réflexion parce que c'est un secteur qui est très transversal. Aujourd'hui, il génère beaucoup de cash. C'est ce secteur-là qui nous permet d'avoir rapidement de l'argent. Parce que vous savez que dès la pesée, les royalties sont facturées, les fonds miniers sont facturés, et c'est de l'argent qu'on paye cash. Donc, il faut accompagner ce secteur-là aujourd'hui pour pouvoir tirer le maximum. Non, à côté des exploitants, il y a les sous-traitants. Il y a plusieurs sous-traitants aujourd'hui qui ont des difficultés pour approvisionner ces sites-là. Il y a eu une attaque à la sortie de Fada qui a concerné un sous-traitant qui de la mine de Bongo. Bon, il sera difficile, par exemple, pour ce sous-traitant-là de pouvoir fournir encore des biens et des services à la mine sans vraiment une vraie sécurisation. Actuellement, la sécurité est au cœur de la crise que connaît ce secteur. C'est vraiment le côté sécuritaire qu'il faut travailler à résoudre.
Élie Kabouré, je vous remercie.
Ok, c'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est notre invité, Élie Kabouré, le directeur général des mines Actu Burkina. C'est ici que sur FM, cette édition, la mise en œuvre était assurée par Fidèle Compaoré à la présentation Denis Zungrana. Et ce proverbe Bissa, pour vous souhaiter une excellente journée en méditation, la femme mariée à un paresseux n'a pas de mari. Excellente journée.
Radio Omega, l'info en direct.